des choses comme ça qui restent dans notre tête et on peut faire ce qu'on veut, on pense toujours à ça. Dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, on va se retrouver à une période où les choses vont plutôt bien et on voit que Dieu répond aux aspirations légitimes et naturelles que son peuple pourrait avoir et en particulier de son roi David. Avant qu'on se fonce sur le texte, j'aimerais juste qu'on puisse dézoomer un peu pour voir comment se situe cette histoire dans l'histoire biblique en général. Alors depuis le début de l'année scolaire, on est dans cette série E100. On voit le beau logo là-haut. C'est un défi où on veut parcourir la Bible à travers 100 textes essentiels. C'est une sorte de best-of. Alors, on est invité à lire ces 100 textes à la maison. Alors, si jamais vous avez pris du retard dans votre lecture, je vous invite à persévérer. Vous pouvez même vous rattraper pendant les deux semaines qui viennent où on fait une pause dans E100 pour lire des psaumes. Donc si vous êtes en retard, profitez-en pour rattraper votre retard sur les lectures E100. On a aussi l'occasion d'en discuter dans les groupes de maison. Et la majorité de nos prédications rejoignent ce programme E100. Malheureusement, on n'a pas le temps de prêcher les 100 textes en une année scolaire. Sinon, on pourrait en faire deux par dimanche, ce serait pas mal. Je suis pas sûr que vous soyez tous d'accord. Moi non plus, d'ailleurs. L'objectif de tout ça, de ce défi, c'est d'avoir une vue d'ensemble de la progression biblique pour bien voir quel est le message qui est distillé derrière. Alors, ça commence avec Dieu qui crée l'univers et qui a donné un rôle particulier à l'homme et la femme au centre de sa création, avec qui il veut avoir une relation. On a vu que cette relation a été brisée à cause de la désobéissance de l'homme et de la femme. Et que Dieu a donc dû chasser de sa présence, chasser du jardin d'Éden Adam et Ève. Et c'est le début du mal, de la souffrance dont on subit encore les conséquences aujourd'hui. Mais on a vu comment Dieu est intervenu à plusieurs reprises pour repêcher les humains. Avec le déluge, on a vu que Dieu a voulu repartir sur de nouvelles bases, en recommençant avec Noé et sa famille. Mais malheureusement, très vite, la situation a de nouveau dégénéré et c'est reparti comme avant, les hommes étant mauvais. Puis Dieu a fait évoluer sa stratégie. Il a choisi un homme, Abraham, il l'a appelé de son pays pour l'emmener dans un autre pays. Il a dit, je veux faire de toi le père d'un peuple nombreux qui sera mon peuple. Dieu veut s'adopter. Quelques générations plus tard, on entend parler de Jacob, ou aussi appelé Israël, et c'est à partir de ses 12 fils qu'on aura les 12 tribus d'Israël. On a vu ensuite, dans la suite de l'histoire de ce peuple, que les enfants sont nés pendant qu'ils étaient en Égypte, ils sont devenus nombreux, et ils étaient en situation d'esclavage, c'était difficile. Et Dieu les a libérés, et on a vu ça avec Moïse. Et ils ont traversé plein d'épreuves qu'on ne va pas redétailler, ils ont traversé la mer Rouge. Et une fois arrivés dans le désert, Dieu leur a donné une loi constituante, la loi de ce peuple. Et malheureusement, ils ont encore désobéi, râlé, ils ont tourné en rond 40 ans dans le désert. Et puis ensuite, c'est sous la direction de Josué qu'ils ont enfin pris possession de la terre promise en Canaan. Une fois qu'ils ont pris possession de leur pays, on pourrait dire, voilà, c'est bien, ça y est, la promesse de Dieu se réalise, il y a un peuple, il y a un pays. Mais tout n'était pas encore rose. Parce que malheureusement, une fois de plus, les Israélites s'étaient compromis avec le péché, compromis avec les peuples qui étaient restés là dans ce pays. Et on voit se répéter un cycle avec les Israélites qui font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Dieu. Ensuite, l'Éternel les livre aux mains de leurs ennemis qui les maltraitent, qui les oppriment. Les Israélites en prennent conscience et se rendent compte que c'est à cause de leur péché. Ils se repentent, ils appellent Dieu à l'aide. Dieu répond à leur appel. Il leur envoie des juges, ce n'est pas au sens qu'on utilise aujourd'hui dans la vie courante. Nos juges, c'est plus des chefs ou des héros, des guerriers un peu militaires. Et donc grâce à ces juges, ils vont être délivrés pendant un certain temps de leurs ennemis. Ça va aller mieux, et puis ils vont de nouveau désobéir, et ça recommence, et ça recommence. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec Joël. Et le livre des juges se termine avec ce constat.
En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. On voit quel était un des problèmes de fond. Et donc finalement, Dieu établit un roi sur l'ensemble du peuple. Et la première expérience d'un roi, c'était avec le roi Saül. Cette expérience-là n'était pas encore très concluante. Parce que Saül, lui aussi, était infidèle à Dieu. Alors Dieu a choisi un autre roi, David. Il a choisi alors qu'il était encore qu'un ado. Alors on connaît surtout David pour son combat contre Goliath. Mais ce qu'on réalise moins, c'est qu'il y a une quinzaine d'années qui se sont passées entre le jour où Dieu l'a appelé pour devenir roi et le jour où il a vraiment accédé au pouvoir. Et ce qui est frappant, c'est que pendant cette période, qui fut une période très trouble pour le peuple d'Israël, c'était la guerre civile et puis le roi Saül faisait vraiment n'importe quoi. David a su faire preuve de patience, de persévérance. Il a su attendre son heure, alors qu'à plusieurs reprises, il aurait eu la possibilité de tuer Saül, celui qui le maltraitait. Mais il a dit surtout pas, je ne veux pas intervenir là-dedans. Il a attendu son heure. Alors, là, on arrive aujourd'hui avec notre texte. La situation commence enfin à aller mieux. Israël a trouvé une certaine stabilité politique. David est maintenant le roi, incontesté par tout le peuple. Plus de guerre civile. Et de nombreuses victoires sur les ennemis d'Israël. Il s'est installé dans sa nouvelle capitale, Jérusalem, qui était une ville hautement stratégique. David a pu se construire un palais de roi, un vrai roi, quoi. L'arche de l'Alliance qui matérialise la présence de Dieu au milieu de son peuple est dans cette capitale, Jérusalem. Et on pourrait dire, ben ça y est, c'est le happy end, comme dans les films hollywoodiens. Mais en fait, c'est un point charnière dans l'histoire de la révélation biblique, dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire avec un grand H en général aussi. Et on va voir que Dieu se projette dans une perspective très lointaine. Mais je ne vais pas tout dire maintenant. Alors sans plus tarder, on va lire le texte de 2 Samuel, chapitre 7. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage, vous pouvez ouvrir à 2 Samuel, chapitre 7. Comme le roi s'était installé dans son palais, et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une toile, d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Comme je l'avais dit, tout va bien pour David. Il est au sommet de sa gloire. Et maintenant qu'il est délivré de ses principales préoccupations, il dit, eh, mais Dieu, au fait. Et le voilà lancé dans un nouveau projet. Alors le prophète Nathan, c'est un peu son conseiller spirituel. Il ne réfléchit pas à deux fois, il ne laisse même pas à David le temps de finir son projet. Il lui dit, vas-y, fonce mon gars, l'Éternel est avec toi. Oui, mais on va lire la suite. Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter. Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, n'ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre? Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël où je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël. Je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi. Et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple pour mon honneur. Et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré à Saül, que j'avais écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Wow. C'est du lent. Le projet de Dieu était, de David, pardon, était de construire un temple. Un temple somptueux, magnifique. Et ce projet, qui semblait une évidence pour Nathan, quand on regarde la réponse de Dieu, tout de suite, ça l'est un peu moins. Non, mais je t'ai rien demandé. Ça me va très bien, ma tante. J'en ai pas besoin de ton temple. Bon, il n'a pas dit exactement ça. Finalement, Dieu va quand même reprendre cette idée, d'ailleurs, qu'on lui construise un temple, et c'est le fils de David qui va se charger de ce projet. Mais ce qui est le plus surprenant dans la réponse de Dieu, c'est le projet que lui, Dieu, promet à David de lui construire une dynastie qui durera pour toujours. À la classe. Vous avez déjà vu une dynastie qui ne s'arrête jamais? Ça n'existe pas, ça, dans l'histoire. Dans les versets suivants, qu'on ne va pas prendre le temps de lire maintenant, on va voir que la réaction de David est positive, forcément, face à un tel projet. Il n'est pas vexé que Dieu ne prenne pas comme il le voulait son projet à David. Il se rend compte à quel point le projet de Dieu est tellement meilleur. Alors il s'humilie devant Dieu et est reconnaissant pour ce privilège qui est une pure grâce. Alors, sans trop m'étendre, je veux juste faire quelques commentaires avant qu'on puisse rapidement aller aux applications. C'est juste pour qu'on comprenne les points clés du texte pour comprendre ce qu'il y a derrière. Le premier, c'est qu'il y a un jeu de mots dans le texte qui n'apparaît pas en français, en tout cas pas dans la traduction que j'ai utilisée. Les mots palais, qu'on a au verset 2, temple, ce que David veut construire pour Dieu, et la dynastie sont en fait trois traductions d'un même mot, bet en hébreu, qui se traduit par maison, avec plusieurs sens pour ce mot maison. Alors si on reformule l'histoire avec le mot maison, on peut le dire comme ça. David se dit, qu'est-ce que je suis bien dans ma maison? Et si je construisais une maison à Dieu, ce serait mieux que sa pauvre tante. Et Dieu lui répond, quoi, tu veux me construire une maison? Non, 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 c'est moi qui vais te construire une maison. Par contre, ton fils me construira aussi une maison, mais celle que moi je vais te construire tiendra pour toujours. Alors ça nous emmène directement sur ma deuxième remarque. Derrière ce jeu de mots, avec maison, on voit qu'il y a une sorte de surenchère de projet. D'un côté, on a le projet de David, construire son temple, et de l'autre, le projet de Dieu, constituer une dynastie éternelle. Alors, en faisant remarquer ça, j'aimerais qu'on se rende compte que parfois, dans la vie, il y a aussi une surenchère ou une concurrence de projets entre les projets que nous, on peut se faire et le projet que Dieu a, et qui en général a cette portée éternelle. Alors, au passage, on peut aussi faire remarquer que le projet de David n'était pas incompatible avec le projet de Dieu, qui s'inscrivait en quelque sorte dans le grand projet. Troisième remarque, elle porte sur l'accomplissement de ce projet de Dieu. Une dynastie inébranlable et à perpétuité. Quand on regarde la suite de l'histoire, on est en droit de se poser quelques questions. Au premier abord, elle n'a pas l'air si longue que ça, cette dynastie. Alors, il y a eu Salomon, le fils de David, qui a encore eu un règne glorieux, dans le sens où il était réputé pour sa sagesse, sa richesse. Il a entrepris des grands travaux, dont le temple. Mais malheureusement, il a aussi dérivé. Il s'est laissé séduire par de nombreuses femmes, dont des femmes d'étrangères, qui l'ont entraîné à tolérer l'idolâtrie. Et la conséquence, c'est que peu après la mort de Salomon, le royaume s'est déchiré. dynastie de David a continué encore un peu sur la moitié du royaume, la partie du sud, où Jérusalem était la capitale. Mais ça n'a pas duré éternellement, peut-être une vingtaine de générations en tout cas. Le royaume de Juda a été dissous, les gens ont été emportés par les Babyloniens en exil. Alors un trône inébranlable à perpétuité, vraiment. Alors quand on regarde la suite ensuite de l'exil, 70 ans après, le peuple, en tout cas un reste de ce peuple, a pu revenir sur ces terres de manière, moi qui continue à me surprendre, on n'a pas le temps de voir le détail de cette histoire-là aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'à la tête de ce peuple, il y a un gouverneur qui s'appelle Zorobabel, qui était un descendant de David. Tiens, tiens. Bon, ce n'était pas un roi. Il restait un féodé à l'Empire perse. Alors, quoi qu'il en soit, d'un point de vue politico-historique, c'est quand même difficile de dire que la dynastie de David a duré éternellement. Mais pourtant, les Israélites se sont toujours accrochés à cette promesse faite à David et continuèrent d'espérer le retour de quelqu'un sur le trône de David. Pour ceux qui aiment les gros mots, je vais dire que c'est une sorte de nostalgie eschatologique. Mais si vous n'aimez pas les gros mots, vous pourrez oublier cette phrase. On peut voir que ce qui était une aspiration politique très forte, cette aspiration-là était très vive au temps de Jésus. Beaucoup de Juifs ont vu en Jésus cet héritier de David qui allait rétablir la justice et l'indépendance du royaume d'Israël par rapport à tout empire étranger. Et ils en avaient écrémé quelques-uns jusque-là. Et par exemple, quand on voit dans l'épisode de l'aveugle Bartimée, quand il interpelle Jésus, il appelle « Aie pitié de moi, fils de David !» Ou alors quand Jésus est acclamé, en arrivant à Jérusalem, dans l'épisode qu'on fait au rameau, c'est « Hosanna au fils de David !» Les gens reconnaissaient en lui cet héritier de la promesse qui était faite à David par Dieu dans le texte du jour. Ils s'attendaient que Jésus allait les délivrer du joug des Romains. Et même avant, quand on regarde le texte où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va enfanter Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Tiens, tiens. Difficilement être plus explicite. Et ça continue comme ça. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, donc le peuple d'Israël. Et son règne n'aura pas de fin. On la retrouve là, la promesse de Dieu, faite à David. On comprend que la dynastie qui était promise à David, c'était pas tant une dynastie terrestre, politique, même s'il y en a eu une partie au début, et surtout qu'il y avait une composante spirituelle, entre guillemets, plus générale, on va dire. Et Jésus devient le nouveau roi à la tête du peuple de Dieu, ce descendant de David. En plus, quand on fait la lignée de Jésus, il descendait bien de David. Alors, le peuple de Dieu a continué à évoluer depuis l'époque. Quand on lit dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle du peuple de Dieu en utilisant l'image de l'olivier. Donc certaines branches ont été coupées, ça désigne les Juifs incrédules qui ont rejeté Jésus, et dont des nouvelles ont été greffées dessus, et c'est le même arbre, le même peuple. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, c'est que nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur, nous sommes membres adoptifs de ce peuple de Dieu. À la tête de ce peuple trône notre roi, Jésus. C'est lui l'héritier de David selon la promesse. Alors, pour clore ce temps de commentaires, j'allais dire, on voit que le projet de Dieu est encore d'actualité aujourd'hui. Même si la dynastie terrestre n'a pas duré très longtemps, la promesse faite à David est encore d'actualité aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir quelles sont les implications que ça peut avoir dans nos vies aujourd'hui, chrétiens français du XXIe siècle, pas que français d'ailleurs. Alors tout d'abord, la question que j'aimerais me poser, c'est quel est le projet qui me fait vibrer? Est-ce que c'est le projet de Dieu, ce projet de peuple qui dure éternellement, qui lui est attaché? Ou est-ce que ça va être plutôt mon succès professionnel, sportif, artistique, ou peut-être ma sécurité, ma famille, ma maison, même mon église? parce que c'est l'accomplissement du projet de Dieu, du projet éternel de Dieu pour son peuple. Quand on devient chrétien, je viens de le dire, on intègre le peuple de Dieu. Nous sommes morts à nous-mêmes et donc à nos ambitions individuelles. Nos projets deviennent ceux de Dieu, ou plutôt le projet de Dieu devient notre projet principal. Et je constate que trop de chrétiens vivent comme si Dieu était leur aide pour arriver à leur propre fin ou répondre à leurs propres besoins. C'est une sorte, ils voient un peu Dieu comme une sorte de génie dans la lampe, comme dans Aladdin, qui va accomplir mes vœux. Et quand on a une conception comme ça, on passe à côté du projet de Dieu. Écoutons nos prières. Parfois, dans nos prières, on se rend compte qu'est-ce qui est au centre. Est-ce que c'est nos préoccupations, simplement, ou notre préoccupation pour le projet de Dieu? Alors, j'ai envie de retenir cette phrase. Être chrétien, ce n'est pas avoir Dieu à notre service, c'est plutôt nous mettre au service de Dieu. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne vibre pas autant que ça pour le projet de Dieu, pour l'avancement de son royaume, pour l'unité de son peuple? Pourquoi on ne vibre pas plus que ça pour la perspective du retour de Jésus-Christ? Soyons conscients qu'en étant chrétien, nous sommes d'abord des citoyens du royaume des cieux, pour utiliser un mot jargon. Et cette image de la citoyenneté, on peut considérer que aujourd'hui je suis français, j'habite en France, mais c'est comme si j'étais un étranger qui avait eu un visa pendant quelques dizaines d'années où je vais vivre sur la terre, mais après je vais retourner dans mon pays, maintenant je suis citoyen des cieux. Et je pense à ces juifs qui étaient exilés à Babylone et qui pleuraient régulièrement en pensant à Jérusalem. Ils ont nourri cet espoir quotidiennement d'y retourner. D'ailleurs, cet espoir, les juifs de la diaspora ont continué à le nourrir pendant des siècles, retourner à Jérusalem. Et nous, est-ce qu'on a la même passion pour le peuple de Dieu, pour son projet, pour son roi? Alors, je propose que, face à ce constat, on puisse nous placer devant Dieu, lui remettre, dire, ben, voilà Seigneur, je suis obligé d'être honnête avec toi. J'ai tendance à vibrer plus pour mes projets personnels, terrestres. Mais aide-moi à réaliser que ton projet est tellement plus important, tellement plus grand. J'arrive à une deuxième application. Deuxième question, en fait. Est-ce que j'accepte que les choses ne se passent pas comme je les avais prévues? Comment est-ce que je gère les contretemps, les contrariétés? On a vu que David a su accepter que Dieu ne le laisse pas faire son projet comme il le voulait. Cette construction du temple. Alors la solution, c'était le cas pour David, c'est de se rendre compte que le projet de Dieu est tellement meilleur qu'on perd rien à ce que notre projet ne se réalise pas, ou en tout cas pas comme on le veut. Mais c'est pas toujours aussi flagrant, pas toujours aussi évident que dans le cas de David. Peut-être que dans certains cas, c'est beaucoup plus difficile de voir quel est notre intérêt à telle situation. Parce que peut-être qu'il faut que j'accepte de perdre quelque chose, voire même quelqu'un qui m'est cher. Ah non, là, Seigneur, c'est trop dur, ça. Parfois, on ne voit pas du tout à quoi une épreuve ou un échec peut nous servir. Et c'est le mystère de la souffrance. Ce serait trop facile si on savait expliquer. Bon, je vais souffrir, mais ça va être mieux après. On est bien obligé de faire confiance à Dieu. Réjouissons-nous alors projet de Dieu, qui lui continue à avancer, et qui est plus important, qui est éternel. Et quand on place toutes nos pensées, nos préoccupations sur le projet de Dieu, qui lui continue d'avancer, avec ou sans nous, tout d'un coup, nos échecs, nos déceptions perdent beaucoup en importance. Alors, troisième application. Troisième question. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire avancer le royaume de Dieu? Alors, je vais vous proposer quelques pistes qui ne sont pas exhaustives, c'est juste quelques idées très pratiques. Première chose, pour nous placer dans le projet de Dieu, c'est de fréquenter régulièrement les frères et sœurs chrétiens et de rechercher la communion avec eux. Alors, le premier lieu pour ça, là où c'est le plus facile, on a la chance de pouvoir le faire en toute liberté en France, c'est de nous réunir à l'église le dimanche matin, ou un autre jour d'ailleurs. Au-delà de ça, on peut aussi multiplier les occasions de rencontrer des frères et sœurs qui sont dans d'autres églises, pas forcément dans la même dénomination que nous. Tout ça pour nous rendre compte que le peuple de Dieu est nombreux, qu'il est divers. Et pour apprendre à le connaître, apprendre à l'aimer. Nous faisons partie de ce peuple, donc apprenons à le connaître et à l'aimer. Deuxième chose, on peut agir concrètement dans le service. Ça veut dire consacrer du temps, de l'énergie, utiliser nos dons pour le bien de la communauté. Et peut-être que ce matin, vous savez que vous n'êtes peut-être pas au maximum de votre potentiel de service, et je vous invite juste à être attentif aux besoins que vous pouvez voir autour de vous, que ce soit dans l'église à Ozoir ou vraiment plus largement. Et si vous n'avez pas manqué d'idées, je suis sûr que vous trouverez des gens qui auront des idées, que ce soit des responsables ou d'autres personnes. Troisième application possible, tout simplement donner une partie de nos moyens, financiers ou autres. Comment donnons-nous? Combien donnons-nous? À qui donnons-nous? Les réponses à ces questions sont de très bons indicateurs de notre attachement au projet de Dieu, à son peuple. On puisse réfléchir à ces questions. Quatrième et dernière piste, on peut s'informer et prier pour l'Église, pas juste l'Église locale. Hein. On a accès à tellement d'informations aussi facilement aujourd'hui. Renseignons-nous sur ce qui se passe ailleurs dans le peuple de Dieu, que ce soit en France ou partout dans le monde. On peut suivre par exemple les informations que l'ONG Portes Ouvertes nous donne sur la situation dans différents pays où les chrétiens sont persécutés. Une question que j'aimerais qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai ce sentiment d'appartenance à la même famille quand je pense ou quand je suis au milieu de frères et sœurs qui sont très différents de moi? Par exemple, si je me retrouve au milieu d'un camp de réfugiés avec des Iraniens fraîchement convertis, est-ce que je vais me sentir en famille avec eux? Et si je suis au fin fond d'un village de la Brousse et les trois quarts ne savent même pas lire, est-ce que je vais me sentir en famille avec eux? Je comprends rien à ce qu'ils disent en plus. Et si je suis au milieu de chrétiens ultra-conservateurs américains qui ont voté pour Trump, est-ce que je me sens en famille avec ces gens-là? Avec des juifs messianiques qui ont des rituels que je ne connais pas, qui me sont un peu étrangers? Est-ce que je sens que je fais partie de la même famille Dieu n'a qu'un peuple? Et qu'on est tous derrière notre seul roi, Jésus. Sur ces questions, on va conclure. J'ai dit en introduction comment Dieu répondait aux besoins de son peuple, et en particulier de David à ce moment-là. Il ne pouvait pas être plus comblé que d'avoir l'avenir assuré pour sa descendance. Et on pourrait être tenté de conclure comme ça. Vous avez vu comment Dieu a répondu aux besoins de David au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Dieu va nous bénir et nous donner plus que ce que nous voulons. Il va répondre à tous nos besoins. Alors, c'est souvent le cas. Parce que Dieu aime nous bénir. Mais ce n'est pas le message principal qui ressort du texte aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a tendance à prendre Dieu pour le génie dans la lampe. Et dans cette optique, on va plus mesurer la grandeur de Dieu, sa bonté, voire même son existence, à la qualité du service rendu. Alors cette manière de raisonner, elle existe non seulement chez des incroyants, mais même chez des chrétiens, de voir Dieu comme ça. Mais on passe à côté du véritable projet de Dieu. Ce que nous dit ce texte, avant tout, et c'est sur ça que je veux conclure, c'est que Dieu a un projet. Pas juste un petit projet à l'échelle de quelques années, non, un projet à l'échelle de l'histoire du monde. Une partie déjà importante de ce projet s'est réalisée dans l'histoire du peuple d'Israël et l'histoire de l'Église. Mais le projet n'est pas encore fini. On attend encore le retour. De Christ et le temps de la fin. Alors arrêtons de regarder notre nombril et regardons à Dieu et à son projet. Préoccupons-nous d'abord du royaume de Dieu. Alors la bonne nouvelle au passage, c'est que quand on se préoccupe du royaume de Dieu, ce n'est pas incompatible avec nos besoins. Et j'aimerais vous laisser ce petit témoignage. Quand j'étais ado, pendant quelques années, j'étais vraiment obsédé par mon avenir, par mes études, par ce que je voulais faire comme métier plus tard. Et je pensais tellement à ça que je n'arrivais pas à vivre autrement que pour mes études. Ça me rendait malade d'ailleurs. Dieu, merci parce que j'ai ce Dieu infini qui te révèle à nous. Tu veux que nous comprenions ta pensée. Tu nous as laissé ta parole. Et Seigneur, merci parce que tu nous en donnes un accès si facile aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie pour que l'accès à ta parole ne se limite pas à avoir un livre dans notre bibliothèque ou sur notre smartphone. Mais que ce soit que nous puissions comprendre au fond de notre cœur ce qui tu es, ce que tu veux. Seigneur, je prie pour que tu nous apprennes à savourer, à être émerveillés par ton projet pour le peuple. Seigneur, que tu nous aides à nous rendre compte qu'avant tout, en devenant chrétien, nous devenons adopter dans ta famille, dans ton peuple. Seigneur, tu vois ce constat qu'on a pu faire